Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Nous sommes dans la boisserie avec Madame Aurore Jacquinot, qui est responsable de la boisserie, Claude Marmot, historienne et membre de la Fondation Charles de Gaulle. Nous avons donc la joie de pouvoir visiter quelques pièces. Et par laquelle commençons-nous ?
Alors nous commençons donc dans un premier temps par la salle à manger, qui est la pièce donc où se retrouvait la famille de Gaulle lors des repas. Charles de Gaulle avait l'habitude de s'installer le dos tourné à la cheminée. Donc il s'amusait à demander à ses invités lors des repas le nombre d'animaux que ses invités pouvaient compter sur la tapisserie d'Aubusson qui se trouvait face à lui, une très
c'est
belle
une
tapisserie.
Une dame à la licorne ?
Voilà, tout à fait, c'est une dame à la licorne, c'est une tapisserie normalement du 15e siècle. Donc il s'amusait à demander à ses invités le nombre d'animaux qu'il y avait sur cette tapisserie et les invités ne tombaient jamais sur le même nombre, puisqu'en fait, il y a plein d'animaux qui sont cachés.
Voilà, comme dans tous les décors champêtres des tapisseries à mille feuilles.
Oui, oui. Et dans cette pièce, il y a deux éléments assez importants auxquels tenait sans doute particulièrement Charles de Gaulle. Il s'agit d'une part d'un coq en acier qui se trouve à côté de la grande fenêtre qui lui a été offert par la ville de Lille. Lille, c'est la ville où il est né, donc le 22 novembre 1890. Et juste au-dessus de la porte d'entrée, vous avez la plaque de la rue Princesse. C'est la plaque originale qui lui a été offerte également par la ville de Lille. Donc c'est la plaque de la rue où il est né chez ses grands-parents maternels, donc le 22 novembre 1890.
Je crois qu'à Lille, il y a quelque chose d'intéressant, Claude Marmot.
Bien sûr, la maison natale du général de Gaulle, comme vient de le dire Madame Jacquinot. Et vous remarquerez également dans cette pièce l'atmosphère assez flamande, à la fois du mobilier, la peinture, les mosaïques nordistes, puisque on voit des plaques de céramique de Delft. Donc on sent que là, les repas devaient se passer dans une ambiance assez traditionnelle nordiste, assez ch'ti, si je peux me permettre cette expression. Le général ainsi que Madame de Gaulle, qui était originaire de Calais, avaient, selon le témoignage de leur fils, coutume de parfois s'interpeller en langage ch'ti, justement, ou voire chanter quelques chansons.
Le petit quinquin,
pourquoi pas. Le petit quinquin qui était une chanson qui rappelait au général la Grande Guerre, puisque c'était une chanson finalement si triste que chantaient les poilus qui avaient le mal du pays, qui se rappelaient leur enfance. Et pour lui, c'était quelque chose de très touchant, cette chanson.
Donc ici, dans cette pièce, dans cette salle à manger, vous avez également un endroit particulièrement touchant. En fait, donc face à la grande fenêtre, vous avez une table qui servait de dessert à l'époque du général, avec une chaise donc, qui est tournée vers cette fenêtre, et à côté, vous avez un fauteuil. En fait, après le décès du général de Gaulle, Yvonne de Gaulle a continué à habiter ici, dans cette demeure. Comme le général de Gaulle avait refusé toute retraite de président de la République, son épouse fit la même chose, donc elle vivait avec un revenu quand même assez modeste. Et en fait, à la fin de sa vie, elle ne vivait plus que dans cette pièce, donc dans la salle à manger. Donc elle s'installait sur cette table face à la fenêtre qui lui servait en fait de bureau pour s'occuper notamment donc de la Fondation Anne de Gaulle. Et de même, ce fauteuil, donc elle s'installait dessus pour broder, enfin bref, pour passer ses après-midi.
Et se mettre à côté du radiateur.
Oui, tout à fait, oui, oui, à côté du radiateur. Parce que c'est vrai que la légende veut qu'en Haute-Marne, il ne fasse pas beau, mais ce n'est pas vrai. Il fait un temps absolument exquis, c'est un vrai régal. Je crois qu'il fait 25 degrés aujourd'hui, hein, donc non, il fait absolument beau. C'est une légende.
Mais je veux bien le croire, étant donné la beauté de toutes ces pivoines par lesquelles on a pu passer dans les chemins et le jardin superbe qu'on ira visiter d'ailleurs tout à l'heure. Aurore Jacquinot, avez-vous d'autres pièces à nous montrer ?
Le vestibule, donc, qui est la première pièce qu'on voit en fait, quand on entre. Alors dans ce vestibule, donc, il y a un très bel escalier en bois qui a été donc refait après la guerre, puisque le précédent avait brûlé lors du pillage et de l'incendie de cette demeure. Cette maison, donc, le lieutenant-colonel de Gaulle l'a achetée en 1934. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été pillée et incendiée. Donc le général et son épouse l'ont fait totalement reconstruire après la guerre. Donc ils ont notamment fait refaire ce très bel escalier en bois qui trône vraiment dans ce vestibule.
C'est du chêne apparemment, parce que le bois est clair.
Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est très certainement du chêne. Je pense que c'est du bois de la région. Ici, la Haute-Marne, c'est un département qui est très boisé. Et surtout, alors, sous cet escalier, vous avez une pièce assez insolite. Vous avez la petite pièce où se trouvait le téléphone. Le général de Gaulle n'aimait guère le téléphone, hein, donc il avait vraiment relégué le téléphone dans un petit coin de la maison. Il ne voulait pas être dérangé. Il considérait le téléphone comme un objet intempestif. Mais paradoxalement, donc dans cette petite pièce, donc dans ce placard, il n'y a pas d'autre mot, dans lequel il y avait le téléphone, le général a quand même eu des conversations assez importantes. Si l'Élysée ou Matignon l'appelait ici le week-end, c'était forcément pour des choses assez graves. Et ces conversations donc, se passaient ici, sous l'escalier.
Claude Marmot, dites-nous un petit peu tous ces masques, à quoi ça, ces masques voilà. Africains.
Cet escalier comporte aussi, d'après ce que nous pouvons voir au rez-de-chaussée, beaucoup de masques africains qui ont été offerts au général au cours de ses nombreux voyages. Et il y avait également, d'après la tradition, mais ça nous ne pouvons pas le voir puisque c'est très privé, à l'extérieur de la chambre du général, un tableau représentant une sorte de jeu de loi dessiné par les lycéens du lycée d'Addis Abeba où le général s'était rendu en Éthiopie, où le général s'était rendu en 1966, qui représentait, donc ce tableau représentait sous forme de chemin de jeu de loi, la vie du général de Gaulle en images, en vignettes naïves, entourée par la légende du roi Salomon et de la reine de Saba. Et entre les deux, il y avait écrit en amharique ancien, donc la langue ancienne éthiopienne, le lien qu'établissaient les Éthiopiens entre la légende fondamentale de leur pays et puis la vie du général de Gaulle. Donc cette toile se trouve actuellement à Lille, marouflée sur une toile de jute. Et c'est une pièce historique très intéressante. Ici, vous avez donc le grand salon qui comporte, entre autres choses, des portraits de la famille de Gaulle. En particulier, là, sur la gauche, le portrait du trisaïeul du général Jean-Baptiste de Gaulle, qui était procureur au Parlement de Paris, originaire de Champagne. La famille s'était installée au XVIIIe siècle, donc sur la région parisienne. Et vous avez là le portrait donc, de Jean-Baptiste de Gaulle, de son fils Jean-Baptiste Philippe, qui a été emprisonné sous la Terreur au Collège des Écossais à Paris. Et à cause de cette histoire, évidemment, la famille de Gaulle considérait, et en particulier le père du général qui était professeur d'histoire, considérait que la Révolution française était satanique par essence. Ça ne vous surprendra pas. Sur la droite, vous avez le portrait du grand-père paternel du général de Gaulle, qui était chartiste et qui a établi la généalogie de sa famille, entre autres choses. Voilà quelques portraits de famille, ainsi qu'une vitrine consacré à des objets de culte auxquels tenait particulièrement Madame de Gaulle.
Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est une vitrine qui a été faite exprès pour pouvoir y mettre justement certains cadeaux religieux. Alors, vous avez notamment dans cette vitrine donc, une photo dédicacée du pape Jean XXIII. Vous avez également une Vierge à l'enfant qui vient du Brésil, qui a été offerte à Yvonne de Gaulle. Et surtout, alors, l'objet le plus intéressant, le cadeau le plus intéressant, c'est la Pietà en bois du XVe siècle qui a été offerte par le chancelier allemand Konrad Adenauer à Yvonne de Gaulle. Alors le chancelier allemand a été le seul et unique chef d'État à être reçu ici même dans cette maison. Il faut bien comprendre que la demeure, la boisserie, c'était avant tout une demeure familiale. Donc le général de Gaulle n'avait pas l'habitude d'y recevoir de personnalités. Certains de ses ministres ne sont jamais venus à la boisserie. Et donc le seul chef de gouvernement étranger pour lequel il a fait une exception, ça a été donc le chancelier allemand Konrad Adenauer en 1958, en septembre 58. Et en fait, c'était pour débuter la réconciliation franco-allemande.
Je pense que c'est le lien direct qu'on peut faire avec, au mémorial, une exposition, une salle permanente d'exposition Konrad Adenauer, Charles de Gaulle.
Tout à fait. Je précise également que Adenauer ayant été reçu ici dans la demeure familiale à la boisserie, donc Adenauer a souhaité offrir un cadeau à la maîtresse de maison qu'il accueillait chez elle. Il n'a pas offert de cadeau au chef de l'État français, au général de Gaulle, il a offert un cadeau à Yvonne de Gaulle, à la maîtresse de maison qu'il accueillait chez elle, pour les remercier vraiment de l'accueillir comme un ami, parce qu'en 1958, ce n'était pas du tout évident pour les Français et pour les Allemands de l'époque.
Mais je crois que Yvonne de Gaulle et Konrad Adenauer avaient un sujet tout trouvé, c'était l'amour des roses.
Oui, oui, c'est vrai. Yvonne de Gaulle, effectivement, avait préparé un petit bouquet de roses, puisqu'il y a effectivement beaucoup de rosiers dans le parc de la demeure. Il y a beaucoup de pivoines qui sont en fleurs à cette époque de l'année, mais nous commençons également à avoir beaucoup de rosiers. Et normalement, certains de ces rosiers datent d'Yvonne de Gaulle. Alors la plupart de ces rosiers d'ailleurs sont roses. Il y a quelques rosiers rouges, mais la plupart de ces rosiers sont roses. Et concernant le chancelier allemand et Yvonne de Gaulle, tous les deux étaient catholiques et très croyants. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça aussi le choix du cadeau de la Pietà. Donc Adenauer n'était pas protestant comme beaucoup d'Allemands, il était catholique. C'était l'ancien maire de Cologne. Nous sommes dans la bibliothèque et donc face à nous, nous pouvons voir le fameux bureau du général de Gaulle. Alors ce bureau se trouve dans une tour d'angle de forme hexagonale que le général de Gaulle a fait rajouter après la guerre au moment de la rénovation. Et il a fait construire cette tour donc de façon à pouvoir profiter d'un paysage absolument exceptionnel par la fenêtre centrale. Là, c'est bien dégagé aujourd'hui. Donc on voit la ligne d'horizon au fond qui se trouve à 60 km de nous. Et sous la ligne d'horizon, vous voyez ce qu'on appelle la côte des Barres, c'est-à-dire le vignoble champenois entre Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine. Ici, on est vraiment en région Champagne, on n'est pas en région Lorraine, malgré évidemment la croix de Lorraine qui trône dans le village. Et donc le général de Gaulle regardait en direction de l'ouest, en direction de Paris quand il était dans son bureau, et il voyait un paysage typique de Champagne, avec à l'avant-plan la forêt de Clairvaux. Il était très attaché et très intéressé en fait par Saint-Bernard, Saint-Bernard de Clairvaux.
Encore un grand personnage historique qui est dans la région, Claude Marmot.
Oui, d'après ce que j'ai entendu dire par des membres de sa famille, le général de Gaulle allait assez fréquemment à Clairvaux, dit-on, pour se confesser, c'est dire s'il avait un attachement particulier pour Saint-Bernard et pour tous les personnages liés à la croisade.
Je vois la table où est décédé le général de Gaulle le 9 novembre 1970.
Donc ici, effectivement, vous avez la fameuse table de bridge sur laquelle donc, il faisait une patience. Donc le 9 novembre 1970, lorsqu'il a été pris d'un malaise, et donc il est décédé très rapidement, donc en fin d'après-midi. Et donc nous sommes ici dans la bibliothèque, devant l'endroit précis où il est décédé. Et c'est sûr que ça a été une mort assez brutale. Le jour même, il avait été se promener, il avait rédigé une partie de ses mémoires. Mais je pense que pour lui, c'était sans aucun doute une très belle mort, puisqu'il est mort entouré des siens dans sa demeure.
Dans ces bibliothèques, on voit beaucoup, évidemment, de maîtres linéaires de livres. Quels étaient ses livres préférés ?
Alors, sans nul doute, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui l'ont inspiré pour écrire ses propres mémoires, qui se trouvent d'ailleurs dans son bureau. Et ici, dans la bibliothèque, on a notamment le mémorial de Sainte-Hélène, qui l'aurait également inspiré pour écrire ses mémoires. Mais ici, vous avez une culture littéraire assez classique. Je précise également qu'ici, c'est quand même une bibliothèque familiale. Il y a certains livres pour enfants. Il y a Le Lion de Joseph Kessel, évidemment. Il y a comme ça certains ouvrages. Je précise également que la demeure, à l'heure actuelle, se trouve telle qu'elle est restée depuis le départ d'Yvonne de Gaulle, donc depuis 1978. Et donc, en fait, dans les livres, vous avez certains livres que le général de Gaulle n'a pas connus, que Yvonne de Gaulle a reçus en cadeau après la mort du général. Il y a notamment le tout premier exemplaire des Chaînes qu'on abat de Malraux, qui se trouve donc dans le bureau et donc évidemment qui est dédicacé de la main de Malraux et qui a été offert donc à Yvonne de Gaulle après le décès du général.
Je voulais ajouter, au moment où le général a été frappé de cette rupture d'anévrisme qui a entraîné son décès, il attendait de voir les informations régionales à la télévision. C'était près de 19h et la tradition voulait à cette époque il y ait des émissions donc, d'information régionale. La télévision, nous la voyons encore, elle est en place. Le général était très intéressé, à la fois bien sûr par les nouvelles du monde que pouvait transmettre la télévision, mais également par certaines émissions qui montraient l'unité française, la chaleur de l'entente entre les Français, telles que Interville, par exemple, qu'il ne manquait jamais. Voilà quelques-uns des aspects familiers du...
Oui, et je crois que le général avait une double face, c'est-à-dire qu'il aimait regarder Interville, ça m'étonne, mais bravo, tant mieux. Et je crois qu'il aimait aussi les opérettes. Alors, ce sont des airs auxquels on ne pense pas forcément pour un homme de son envergure historique. Aurore Jacquinot.
Oui, alors concernant la musique et le général de Gaulle, juste un détail que moi j'ai déjà remarqué, c'est concernant le poste de radio. Donc il se trouve, qui trône vraiment à côté de la cheminée, donc avec à côté le fauteuil du général sur lequel il s'installait. Donc on l'imagine tout à fait en train d'écouter la radio. Mais dans ce poste de radio, au-dessus, il y a un tourne-disque. Et si vous faites attention, on ne peut pas ouvrir le tourne-disque. On ne peut pas écouter de musique. Donc en fait, je pense qu'il n'écoutait pas de musique, enfin très très peu.
Il dit qu'il n'était pas mélomane.
Il ne l'était pas depuis son enfance, quasiment. C'était plus quelqu'un qui était intéressé par les arts picturaux que par la musique classique. Bon, il la connaissait, bien évidemment. Madame de Gaulle jouait du piano, mais à la manière des jeunes femmes de bonne famille. Voilà, exactement. Par contre, il appréciait beaucoup la sculpture. Et vous voyez, il y a des bronzes qui trônent dans différentes parties de cette pièce, en particulier un bronze sur la cheminée qui est très symbolique, qui représente un homme seul tirant de l'eau l'épave de la France. C'est l'image même du général de Gaulle, l'homme du 18 juin, sortant la France du drame dans lequel elle était engluée. Et puis de l'autre côté, une image de la patrie souffrante, donc là aussi très symbolique. Tout en haut des rayonnages de la bibliothèque, vous voyez les portraits dédicacés de tous les grands de ce monde que le général a eu l'occasion de rencontrer au cours de sa carrière. Donc, bien sûr, Winston Churchill, ça va de soi, le général Eisenhower, Franklin Roosevelt, mais aussi l'empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, et d'autres personnalités.
Je vois une statue de Danton, est-ce que c'est parce qu'il est originaire d'Arcis-sur-Aube ?
Peut-être. Et puis Danton, parmi tous les personnages de la Révolution dont je disais tout à l'heure qu'elle était honnie par la famille du général, c'est quand même celui qui avait le plus grâce à leurs yeux, me semble-t-il, dans la mesure où il avait été celui qui considérait qu'il fallait défendre la patrie en danger. On voit sur un des rayonnages de la bibliothèque des lampes de mineurs, une série de lampes de mineurs, qui était offert au général chaque fois, les 10 fois où il s'est rendu dans sa région de naissance, entre 1944 et 1966, on lui offrait toujours des lampes de mineurs. Et il faut savoir que le général avait combattu à côté de mineurs de la région du Nord-Pas-de-Calais, et en même temps, il est descendu même dans la mine en 59, du côté de Lens. Donc c'est vraiment un type de population qui lui paraissait représentatif du peuple français, les mineurs, courageux, durs au travail. Et
oui, et de son enfance, puisqu'il a connu la culture des mines.
Donc on a vu qu'à la salle à manger, il y avait des traces de son enfance lilloise, et là, des traces également des souvenirs de son enfance nordiste, de sa jeunesse nordiste.
En fait, ici, on est dans le parc. Celui-ci fait quasiment 3 hectares. Le général de Gaulle aimait beaucoup son jardin. Il ne disait pas parc, d'ailleurs, il disait son jardin dont j'ai fait 1000 fois le tour. Et effectivement, j'ai l'habitude de dire que le jardin, c'est un petit peu le luxe de cette maison, puisqu'à l'intérieur, très souvent, les visiteurs nous disent que l'intérieur est quand même assez modeste. Mais par contre, le parc est assez magnifique. Et surtout, évidemment, il y a ce point de vue comme ça, à perte d'horizon. Donc, c'est vraiment très, très joli. Et juste pour préciser, parce que ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, il y a une partie du parc qui est laissée en jachère. Donc, c'est tout à fait volontaire. C'était comme ça à l'époque du général de Gaulle. Il y a une partie du parc qu'on appelle donc le verger, mais dans laquelle on laisse volontairement pousser l'herbe. Donc, en fait, ça fait des foins, ça fait une jachère fleurie. Et à l'époque du général de Gaulle, c'était comme ça. Hein, il ne tondait pas, comme nous maintenant, on a l'habitude de tout tondre. Donc pas du tout, hein, dans les années 50-60, hein, on ne tondait pas. Et en fait, le général de Gaulle faisait faire les foins 2 fois par an dans cette partie de son parc. Et donc, on a gardé le même principe. Mais du coup, nous avons effectivement devant nous là une jachère avec des fleurs tout à fait naturelles, sans engrais, sans pesticides. Et nous avons gardé le même principe, hein, de faire faucher en fait 2 fois dans l'année. Donc là, ça sera fauché la semaine prochaine, juste avant le 18 juin. Et c'est d'ailleurs toujours le même agriculteur qui fauche. Enfin, c'est son fils maintenant, mais c'est toujours la même famille, hein, qui vient faucher ici dans le parc de cette demeure.
Alors je crois que le 18 juin, il va y avoir du monde aussi bien au mémorial que dans la boisserie.
Oui, 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 nous avons beaucoup de visiteurs prévus ce jour-là, puisque c'est le 70e anniversaire de l'appel du 18 juin 40. Donc effectivement, il y aura sans nul doute beaucoup de monde à Colombey hein, pour rendre hommage à celui qui a quand même lancé un appel à la résistance. Donc ici, dans ce parc, il y a plusieurs éléments très intéressants. Vous avez donc la petite terrasse qui servait à installer la piscine d'été. Vous avez le mini-golf. Plus haut, vous avez l'ancien terrain de tennis. Et à côté de nous, donc, il y a le portique pour la balançoire. Donc le général de Gaulle avait fait installer tous ces éléments pour ses petits-enfants. Donc comme je vous l'ai dit, c'était vraiment une maison familiale avant tout. Et en fait, l'amiral Philippe de Gaulle ou sa sœur Madame de Boissieu ont finalement peu de souvenirs d'enfance ou de jeunesse ici, puisque évidemment ont connu la guerre. Mais par contre, après la guerre, donc l'amiral, enfin à l'époque il n'était pas amiral, mais Philippe de Gaulle et sa sœur Elisabeth de Gaulle se sont mariés et donc ont eu des enfants pour la plus grande joie du général et de son épouse. Et du coup, donc, le général de Gaulle avait fait installer tous ces éléments dans le parc, hein, mini-golf, piscine, etc., pour ses petits-enfants. Donc à l'heure actuelle, les petits-enfants du général de Gaulle, qui ont entre 50 et 60 ans, ont beaucoup de souvenirs hein, qui se rapportent à cette période. Et pour eux, c'était vraiment une maison familiale ici, la Boisserie.
Il était moderne avant l'heure pour mettre un golf dans son jardin comme ça.
Ah oui, oui, ça surprend souvent les visiteurs, parce qu'en plus, bon, on n'imagine pas le général de Gaulle jouer au golf ou dans la piscine, donc évidemment, ce n'était pas pour le général de Gaulle, c'était pour ses petits-enfants, mais effectivement, il pensait vraiment à leur bien-être, hein, il était très attaché, très affectueux, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et notamment, bon, il avait eu sa fille, hein, qui était trisomique, hein, donc évidemment, il avait beaucoup, beaucoup d'affection pour elle, mais évidemment, avec ses petits-enfants, et pour ses petits-enfants, il leur avait même fait installer une salle de jeu dans la maison. Et cette salle de jeu avait quand même la particularité de s'être faite baptiser le hurloir par le général de Gaulle. Alors le hurloir, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais n'empêche qu'il aurait fait une salle de jeu.
Il faut dire qu'il avait 4 petits-fils.
Oui.
Alors déjà 4 petits-fils assez d'âge assez rapproché, c'est on peut faire hurler.
À propos de ce qualificatif de hurloir, je voudrais évoquer le hurloir à enfants qui existe dans la maison natale du général de Gaulle. Car leur grand-mère, qui était une personne très prude, très pieuse, recevait 3 fois dans l'année, à Pâques, au moment de la Saint-Nicolas et au mois de septembre, pendant la foire de Lille, recevait une 15aine de petits-enfants. Et vous imaginez le brouhaha que faisait toute cette petite marmaille. Donc cette grand-mère avait trouvé une ancienne buanderie de la fabrique de tulle de son mari, où elle installait ses petits-enfants, elle ne les entendait pas du coup. Ils pouvaient faire les pique-pendre dans ces lieux. Donc le général avait de tels souvenirs de son enfance à Lille qu'il a voulu faire la même chose pour ses petits-enfants à Colombey.
Merci Claude Marmot. Merci Aurore Jacquinot.
Grand-père Julien Philippe de Gaulle, le chartiste, c'est lui qui a établi la généalogie familiale, considérée donc dans la famille de Gaulle comme la véritable généalogie de cette famille. Le grand-père réussit à remonter jusque un certain Richard de Gaulle, un Normand qui aurait participé à la bataille de Bouvines et aurait reçu de Philippe Auguste un fief du côté d'Elbeuf-en-Bray. Puis, un autre personnage important de la famille, ce serait le sire Jehan de Gaulle, qui, pendant la guerre de Cent Ans, défendit Vire contre les Anglais, fut battu après une résistance héroïque, participa à la bataille d'Azincourt, donnant des conseils qu'hélas le roi n'a pas suivis, pour éviter la défaite sanglante subie par l'armée française. Bref, un personnage lui aussi tout à fait éminent, appartenant à la noblesse d'épée. Ce Jehan de Gaulle se serait replié sur la Bourgogne et faisait partie de ces partisans, comme on dit, des Armagnacs, qui étaient des défenseurs du dauphin Charles futur roi Charles VII, donc en quelque sorte les compagnons de la Pucelle. Et c'est ainsi que donc, la famille s'est implantée dans la région de Cuiserie, du côté de Tournu, où au XVIe siècle, un certain Gaspard de Gaulle aurait été anobli par le roi Charles IX. Seigneur écuyer, il aurait eu une fonction qu'il établissait dans ce qu'on appelait une sorte de noblesse de cloche, comme on disait, petite noblesse de robe. Et de la Bourgogne, la famille se serait ensuite installée à Châlons-en-Champagne, où serait né le trisaïeul du général, Jean-Baptiste de Gaulle, dont le portrait est dans le salon de la boisserie. Et ce Jean-Baptiste de Gaulle a vécu les prémices de la Révolution française et était un adepte des idées nouvelles. Son fils, lui aussi favorable aux idées nouvelles au début de la Révolution française, Jean-Baptiste Philippe, aurait été victime sous la terreur de Robespierre et de ses amis. Et il se serait donc retrouvé emprisonné à la prison des Écossais à Paris. Et ce n'est que la chute de Robespierre à Thermidor qui lui a permis d'avoir la vie sauve. Autant dire que, évidemment, la réputation de la Révolution française n'était pas très bonne dans la famille. Au XIXe siècle, les De Gaulle faisaient partie de ces monarchistes légitimistes qui, après un temps, disons, de scepticisme, de doute un peu voltairien, ont rallié une image très fidèles, très conservatrices de la religion, et ils sont devenus donc des soutiens à la fois sur le plan politique du comte de Chambord et sur le plan donc religieux des idées du pape Pie IX. Donc vous voyez une famille, disons, traditionnaliste et légitimiste. Parallèlement, la famille s'est alliée avec la famille Maillot. Alors cette famille Maillot avait déjà des liens avec les De Gaulle par l'intermédiaire de Joséphine Maillot de Gaulle, grand-mère paternelle du général, écrivain originaire de Dunkerque, qui était en fait la cousine germaine du grand-père maternel de Charles de Gaulle. Donc vous voyez un lien déjà assez étroit entre ces deux familles. Donc probablement cette rencontre entre les Maillot et les De Gaulle a été arrangée. La tradition veut qu'un oncle surnommé Alexandre de Trénel se serait fait le marieur professionnel, en quelque sorte. Et voilà donc Joséphine Maillot de Gaulle entrant dans la famille de Gaulle. C'était un écrivain très populaire du Nord. Elle a écrit une centaine d'ouvrages qui sont répertoriés à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, et parmi ces ouvrages, il y avait des ouvrages de piété, des biographies, dont celle de Daniel O'Connell, le libérateur des catholiques irlandais, dont le général, grâce à sa grand-mère, a connu en détail l'existence, puisque lorsqu'il s'est rendu, comme vous le savez, en 69 avec son épouse en voyage privé dans le berceau de ses ancêtres irlandais, car le général, je vais vous le raconter, avait des ancêtres irlandais. Il est donc l'occasion de visiter sur près de la plage de Derrynane où ont été prises les fameuses photos où on le voit arpentant avec son pardessus aussi sombre que son humeur, la grève irlandaise. Le général a eu l'occasion de visiter donc à Derrynane la maison de Daniel O'Connell et il a estomaqué le descendant de Daniel O'Connell qui lui faisait visiter les lieux par sa connaissance très précise de la vie de ce grand personnage irlandais. Donc celui-ci s'est étonné de cette connaissance qu'avait le général et il lui a demandé pourquoi. Et le général lui a répondu qu'il avait lu la biographie que sa grand-mère avait écrite dans sa jeunesse. Donc vous voyez, c'est une femme qui a eu certainement une grande influence sur cette famille. Cette femme était une femme assez étonnante, une féministe à sa manière du 19e siècle. Elle était rédactrice en chef d'une revue qui s'appelait Le Correspondant des Familles. Et ce correspondant des familles, qui était donc une revue catholique libérale, a accueilli un des premiers textes écrits par un jeune étudiant qui s'appelait Jules Vallès. Voilà qui est très surprenant.
Socialiste populiste.
Exactement, quand on sait la carrière sous la commune de Jules Vallès. Donc comment Jules Vallès a pu entrer en contact avec celle qu'il appelait amicalement et respectueusement aussi la comtesse de Gaulle? Elle n'était pas comtesse, mais enfin, elle était certainement très flattée d'être appelée ainsi. Eh bien, tout simplement, Madame de Gaulle avait créé avec une de ses amies une sorte de société d'entraide où elle accueillait, elle plaçait dans des familles bien pensantes des jeunes gens qui arrivaient de province un peu désargentés et qui faisaient leurs études à Paris. Or, comme tous les romans qu'il a écrits le prouvent, Jules Vallès était l'exemple type de ce genre d'étudiant désargenté. Donc il a bénéficié du soutien de Madame de Gaulle et celle-ci s'est rendue compte, elle qui était elle-même écrivain et assez, à l'époque assez connue, elle a tout de suite parrainé en quelque sorte les débuts dans le roman du jeune Jules Vallès qui lui en a été reconnaissant toute sa vie. Comme quoi, voilà une femme qui n'hésitait pas a dédicacé une de ses œuvres à la comtesse de Chambord en lui disant « Vous, madame, qui êtes notre reine sur la terre, cet ouvrage sur la vie de notre reine du ciel, à savoir évidemment la Sainte Vierge. » Eh bien, cette femme qui avouait des sentiments ardemment monarchistes, elle s'est amicalement liée avec un jeune homme, on ne peut plus, socialiste, voire plus, leur amitié a duré toute la vie.
Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, ces relations qui dépassent les problèmes politiques, puisque ce sont en fait tous un peu des idéalistes.
Exactement.
Donc s'ils se retrouvent dans ces idées-là, et puis des monarchistes de gauche, il y en a toujours eu.
Voilà. Alors quand on voit que Charles de Gaulle avait pour grands-parents paternels une écrivaine populaire et un chartiste qui a écrit une histoire de Paris en 5 volumes extrêmement savante et préfacée par Charles Nodier, donc reconnu comme appartenant, étant une œuvre de qualité, eh bien, rien d'étonnant à ce qu'il ait eu lui-même un beau brin de plume, si on peut dire, et qu'il et était tout de suite attiré par la littérature. Du côté maternel, en revanche, la famille du général de Gaulle appartenait à ces petits industriels du Nord qui se sont lancés dans l'innovation et qui ont joué le jeu de la révolution industrielle. Cette famille Maillot, donc, puisque la mère du général s'appelait, avant d'épouser Henri de Gaulle, Jeanne Maillot.
Encore une Maillot.
Voilà, donc elle était la petite cousine germaine de la mère du général, en quelque sorte. Donc, branche maternelle, les Maillot, c'était des négociants en tabac au XVIIIe siècle, dans la région de Dunkerque. Puis, ils se sont installés progressivement dans d'autres villes du Nord, Valenciennes, mais aussi Lille. Et à Lille, ils se sont implantés durablement. Ces Maillot se sont occupés d'autres fonctions que le négoce des tabacs. Et le grand-père maternel du général donc, a fondé une fabrique de production de tulle mécanique en important un métier, le premier quasiment, d'après ce que l'on sait, métier à tisser le tulle et la guipure, installé dans le Nord-Pas-de-Calais, en association avec un industriel anglais qui s'appelait Monsieur Oldknow, qui venait de Nottingham. Et cette association a donné un bon résultat, puisque la fabrique a eu pendant au moins une dizaine d'années, semble-t-il, une clientèle très, très recherchée et de brillants succès. Le grand-père du général réussit en effet à obtenir une médaille de vermeil lors de l'exposition industrielle de 1878 pour des rideaux décorés des fables de La Fontaine. Voilà, donc c'était un producteur, vous voyez, qui avait une clientèle sur toute la France, à Paris, à Lyon, il avait des filiales, donc ça marchait très bien. Et puis vers les années 1880, la fabrique a un peu périclité, du fait de la concurrence de fabriques équivalentes, soit dans la région lilloise, soit plus au nord, du côté de Caudry ou à Calais. Et le grand-père du général, vieillissant, a fini par abandonner ses fonctions, a fermé ses ateliers, et ses ateliers de la rue Princesse, puisque la fabrique était située rue Princesse sur le numéro 7, le numéro 9 et le numéro 11 de la rue Princesse. Les ateliers du numéro 11 ont été fermés et transformés en locaux d'habitation, si bien qu'aujourd'hui, il ne reste que le numéro 9 de la rue Princesse avec le logis du propriétaire de la fabrique, qui est aujourd'hui la maison natale que l'on peut visiter, et les espaces qui avaient été transformés en logement où ont habité l'une des tantes maternelles et son époux, le parrain du général, M. Gustave de Corbie, eh bien, ces locaux-là ont été maintenant aménagés depuis 2005 en espace de présentation d'exposition temporaire. Donc il y a à peu près 150 mètres carrés d'exposition temporaire où ont été présentés successivement en 2005 une exposition consacrée à De Gaulle, l'homme du Nord, sur les 10 voyages que le général a fait dans sa région d'origine entre 1944 et 1966. Et actuellement, jusqu'à la mi-septembre, une exposition consacrée à la Grande Guerre du Général, fondée sur trois thèmes. Croire en une certaine idée de la France, donc quelle éducation De Gaulle a-t-il reçue, et comment ce patriotisme qui est une de ses constantes lui a été enseigné par son père, le professeur Henri De Gaulle, et sa mère aussi, fervente patriote, comme il le dit lui-même dans les mémoires de guerre. Le deuxième espace est consacré au combat, puis à la captivité du général pendant la Première Guerre mondiale. Et le troisième espace, à la manière dont le général a commémoré lui-même la Première Guerre mondiale et en a tiré leçon pour l'avenir, en particulier est parti de l'idée que, en 1914, avait commencé une guerre de 30 ans qui devait durer jusqu'en 44 et qui en effet s'est prolongée jusqu'en 44.
Merci Claude Marmot. Nous étions assises sur le banc qu'affectionnait le général de Gaulle au fond de son parc pour admirer encore et toujours le paysage boisé. Et nous pouvions admirer maintenant le mémorial et la croix de Lorraine. Après avoir été sur la tombe du général de Gaulle, de son épouse et de sa fille Anne, nous nous sommes installés dans l'église à la place même où le général de Gaulle s'installait, entre les vitraux d'une part de Saint-Louis, d'autre part de Jeanne d'Arc. Claude Marmot, parlez-nous un petit peu plus de la famille de Madame de Gaulle et de cette place importante que Jeanne d'Arc et Saint-Louis et les croisades avaient au cœur du général de Gaulle.
Je voudrais évoquer, parce que évidemment la tombe du général de Gaulle est particulièrement émouvante par sa simplicité, mais aussi parce qu'on y voit, à côté de son nom et de celui de son épouse, le souvenir de sa chère petite Anne. Cette famille a vraiment connu une épreuve particulière avec la naissance en 1928 de cet enfant trisomique mais gravement handicapé, qui n'a pas marché et difficilement avant l'âge de 10 ans, qui ne parlait pas, qui poussait de temps en temps des petits cris, des petits grognements, mais qui ne parlait pas. Mais Madame et le général de Gaulle ont choisi de la conserver auprès d'eux jusqu'à sa disparition en 1948. Donc ils l'ont gardée pendant 20 ans. Il faut dire qu'à cette époque, le destin de ces handicapés mentaux était souvent de finir dans un asile. Donc ils ne voulaient absolument pas ça pour leur enfant, auquel ils ont tout de suite voué un très fort attachement. Le général passait beaucoup de temps auprès d'elle, même dans les moments où ses activités militaires ou politiques le retenaient. Il prenait toujours un peu de son temps pour essayer de lui chanter des chansons, de faire émerger ce petit esprit. Et il était ravi dès qu'il voyait le moindre signe, disons même de joie, qui pouvait se manifester sur le visage de l'enfant. Et quand on voit quelques photos prises à la boisserie, on a l'impression de cela. Il ne faut pas oublier, et c'est là que je vais évoquer la famille de Yvonne de Gaulle, née Vendroux, il ne faut pas oublier la personnalité de cette femme très discrète, dont le général a dit que rien sans elle n'aurait pu avoir lieu. Parce que c'est vrai que c'était une femme qui ne manifestait pas du tout à l'extérieur, qui était restée dans l'ombre de son célèbre époux, mais qui ne manquait pas pour autant de personnalité. Elle appartenait à une famille calaisienne, d'industriels calaisiens, des gens d'une famille nettement plus aisée que celle du général de Gaulle, et surtout qui avait une grand dynamisme, une grande ouverture d'esprit, en particulier la mère de Yvonne de Gaulle, Marguerite Forest, épouse Vendroux, a été une féministe très ardente et une femme qui avait vraiment élevé ses enfants dans cet esprit d'ouverture sur le monde. Et donc, Madame de Gaulle a eu l'énergie nécessaire pour, dans les périodes les plus terribles de sa vie de couple auprès de Charles de Gaulle, en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Pendant la période anglaise.
Oui, mais même avant.
Oui.
Parce que justement, puisqu'on est à Colombey, il ne faut pas oublier que pendant la drôle de guerre, Yvonne de Gaulle s'est retrouvée quasiment seule à la boisserie parce que ses deux aînés, Philippe, âgé de 19 ans, était élève préparé à Paris au collège Stanislas, l'école navale, dont il rêvait depuis l'enfance. Il rêvait d'entrer dans la marine et cela lui a valu quelques difficultés avec son père, qu'il aurait préféré le voir élève de Sciences Po et diplomate. Et puis, la fille, la deuxième enfant du général, Elisabeth, future madame de Boissieu. Elisabeth était élève chez les religieuses de Notre-Dame de Sion, à Paris également. Donc leur mère s'est retrouvée pendant la fin de l'année 39 et le début de l'année 40, pendant cette période donc dite de la drôle de guerre, elle s'est retrouvée isolée dans cette maison de la boisserie avec la petite Anne qui avait 12 ans et qu'il fallait donc continuer à essayer de faire progresser tant bien que mal. Alors elle a eu la chance d'avoir à ses côtés une femme qui s'est dévouée pour la soutenir dans l'éducation de cet enfant qui s'appelait Mademoiselle Potel et qui jusqu'au bout est restée fidèle, qui les a suivis en Angleterre d'ailleurs, et donc une cuisinière, qui était Alexandrine à l'époque, par la suite il y a eu Honorine. Donc vous voyez, elle était vraiment seule, et à l'époque elle n'avait pas de voiture. L'amiral Philippe de Gaulle a raconté comment, pour revenir un week-end, enfin, ou à un moment, revenir à Colombey les deux églises, voir ses parents, il a dû se débrouiller tant bien que mal pour arriver jusqu'à Chaumont dans des conditions par train, mais difficilement. Puis arrivé à Chaumont, mais il n'y avait pas de voiture, pas de bus, rien pour rejoindre Colombey. Donc il y est allé à pied. Et ensuite, il a dû repartir à vélo pour aller chercher sa valise à Chaumont. Donc il a fait 50 km comme ça. Et imaginez ce que ça pouvait être si par hasard Anne, qui avait une santé par ailleurs très fragile et une déficience immunitaire très réelle, si elle attrapait le moindre problème pulmonaire, par exemple, d'ailleurs elle est morte d'une congestion pulmonaire, il fallait appeler des médecins, aller chercher des médicaments, c'était une expédition quasi impossible à l'époque. Donc il faut imaginer le courage de cette Yvonne de Gaulle qui a été vraiment d'une énergie formidable pendant toute cette époque et qui a pris l'initiative de partir en Angleterre le 19 juin 1940 sans savoir où était son époux, dont elle n'avait plus entendu parler depuis quasiment le 8 juin. Donc elle a pris l'initiative de partir, elle s'était repliée à Carantec chez sa belle-sœur Marie Vendroux, qu'on appelait dans la famille, qu'on surnommait Cada Vendroux. Et donc elle s'était repliée là aussi après une expédition assez rocambolesque, en train, en voiture, enfin, avec toutes les difficultés du monde, ils sont arrivés en Finistère Nord. Et là, elle a pris l'initiative d'elle-même de partir en Angleterre. Dans un bateau, la famille s'est entassée. Là aussi, ils sont arrivés, on se demande comment, à Falmouth. Et c'est Philippe de Gaulle qui, cherchant à avoir des nouvelles sur la conduite de la guerre, a acheté un journal anglais et a vu en première page l'annonce qu'un certain général de Gaulle venait de lancer un appel à la résistance. Alors il a demandé immédiatement où était ce général de Gaulle, et c'est comme ça que le général a vu arriver à Londres sa famille. Sa réaction a été typique de sa discrétion, sa pudeur. Il leur a dit « Ah, vous voilà !» La famille, évidemment, était folle de bonheur de se retrouver, mais ils n'ont pas manifesté par des effusions énormes, ce n'était pas le genre de la maison. Donc, à partir de là, Madame de Gaulle est restée aux côtés de son mari, il l'a soutenue dans tout son combat, mais bien entendu, pas à ses côtés, à Londres même. Elle a vécu dans différentes maisons, dans le pourtour du bassin de Londres, souvent des maisons d'ailleurs où le Blitz, qui a commencé à terroriser la Grande-Bretagne à partir de l'été 40, a fait que la petite Anne était vraiment dans une situation extrêmement difficile. Il fallait beaucoup d'énergie, de courage à Yvonne Vendroux de Gaulle pour continuer à soutenir l'action du général pendant tous ces moments, mais elle est restée en lien avec lui. Le général également avait en mémoire sa mère, car sa mère, Jeanne de Gaulle, dont nous avons parlé tout à l'heure, Jeanne Maillot, épouse de Gaulle, était la seule survivante de la génération des parents. Les deux parents d'Yvonne Vendroux étaient morts, l'un en 1931, l'autre en 1933, et le père du général était mort en 1932. Donc, ne restait plus en vie au début de la Seconde Guerre mondiale que Jeanne de Gaulle, qui était en juin 40 à Paimpont, près de la famille de son fils aîné Xavier de Gaulle. Et là, avec sa petite fille Geneviève de Gaulle, la célèbre résistante, qui en a témoigné, elle a, au cours d'un office religieux dans le petit bourg de Paimpont, entendu le curé annoncer qu'un général de Gaulle venait de lancer un appel à la résistance. Et ce curé a eu beaucoup de courage d'oser annoncer cela à ses ouailles. Madame de Gaulle n'a pas pu s'empêcher de s'écrier « Mais c'est mon fils !» d'après le témoignage de sa petite fille. Et du coup, tous les habitants de Paimpont qui étaient à l'église l'ont soutenu, l'ont entouré de leur affection, de leur ferveur. Elle a vécu encore pendant un mois, elle est morte le 16 juillet 1940, très choquée de voir que son fils était accusé de trahison par les autorités de Vichy. Elle a été enterrée à Paimpont, sa tombe était régulièrement couverte de fleurs, et un jeune homme de Paimpont, rejoignant l'Angleterre et rejoignant les forces françaises libres, a apporté une photographie de cette tombe au général, qui a été très touché de voir combien l'affection que les Bretons ont portée à sa mère était en quelque sorte la trace de sa propre affection pour cette mère qu'il avait tant aimée, à qui il devait cette éducation si forte et cette personnalité si forte qu'il avait. Et en même temps, en 1949, il a voulu que sa mère rejoigne son père dans la banlieue du Havre, puisque Henri de Gaulle était enterré dans la banlieue du Havre où il avait vécu aux côtés de leur fille Marie-Agnès Caillot de Gaulle. Et donc la famille, Madame Jeanne de Gaulle, a été enterrée à Sainte-Adresse. Et à ce moment-là, le général a dit à ses sœurs, « Eh bien, je suis réconfortée par cette sépulture et le fait que maman ait rejoint mon père parce que j'ai le sentiment qu'elle aurait toujours été en tout et pour tout avec moi dans mon entreprise. » Et ça, c'est très significatif de ce lien très très chaud, très fervent que le général avait avec tous les membres de sa famille et qu'il a entretenu.
Merci beaucoup Claude Marmot, vous nous avez montré le général de Gaulle sous toutes ses faces et en particulier bien sûr entre la boisserie, le cimetière et l'église où toutes les cérémonies familiales heureuses ou moins heureuses ont eu lieu. Nous avons compris que c'était un personnage pudique mais très affectif. Merci encore.
Merci également.